sûr, et même, je suis à peu près persuadé que je ne suis pas d'arriver à remplir la mission que vous nous avez assignée. Je suis même à peu près sûr que je n'y parviendrai pas. Être constructif ou sortir de l'impasse est certainement tout à fait au-delà de mes capacités, mais je vais vous proposer quelques réflexions organisées autour d'abord de la question du terrorisme qui sera le centre de l'angle sous lequel j'aborderai les questions qui nous ont aujourd'hui intéressés, et c'est une question sur laquelle j'ai travaillé. Et je voudrais, au fond, ramasser mes propos sous quatre propositions. D'abord, une contestation de l'idée que nous pourrions ou qu'il serait justifié d'affronter le terrorisme international que nous avons vu se développer au cours des 10 dernières années au travers de législations d'exception ou de dispositifs d'exception. Je traiterai de ce point dans un premier temps. Dans un second temps, je voudrais interroger et critiquer la notion d'arbitrage entre sécurité et liberté, en montrant un de ces présupposés qui n'apparaît pas nécessairement. Enfin, dans un troisième temps, je voudrais critiquer la notion de société du risque, qui me paraît mettre dans la même catégorie conceptuelle des choses que nous n'avons pas intérêt, qu'il n'est pas justifié de mettre dans la même catégorie conceptuelle, même si cela donne l'impression illusoire de maîtriser un ensemble de choses et d'avoir une grande intelligibilité. D'abord, le terrorisme et les mesures d'exception ou les législations d'exception. Cela pourrait paraître une bonne idée d'affronter cette menace exceptionnelle par des dispositifs ayant la structure suivante. Il est justifié de déroger à des normes constitutionnelles dans certains cas. Dans des cas qui le méritent vraiment, où les circonstances le justifient, pour une durée limitée. Cette structure est en fait une structure que l'on trouve au travers des cultures juridiques et au travers des temps. Ce que j'appelle, c'est un paradigme de l'exception. Il me semble bien entendu qu'on la trouve sous-jacente à cette institution quasiment légendaire qu'est la dictature romaine, mais on la trouve aussi dans des institutions appartenant à d'autres cultures légales, comme la culture anglo-américaine. La suspension de l'habeas corpus relève de la même logique. La loi martiale, un des éléments aussi classiques de la tradition légale anglo-américaine, en relève. Enfin, et je ne fais que les mentionner, ce n'est pas un cours, mais enfin, dans la tradition continentale française, je retiendrai, à la différence de ce que l'on fait le plus souvent, non pas l'article 58, l'article 16 de la Constitution de 1958, qui n'a guère été utilisé qu'une fois et qui est une sorte de toute petite chose, mais l'expérience des Français avec les dispositifs d'exception, qui est celle du 19e siècle et de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire l'état de siège. L'état de siège organisé par des républicains en 1878 et qui mérite, après une expérience de ces dispositifs d'exception. Ceci donne une sorte d'appui à cette réflexion. Et dans les trois cas, sans que je vienne ici à une analyse détaillée, dans les trois cas, on trouve de la part de constituants ou d'acteurs profondément attachés à l'idée de la norme constitutionnelle, l'idée qu'il est des circonstances exceptionnelles dans lesquelles il est justifié de déroger à ces normes constitutionnelles pour une durée limitée. Ceci implique des dispositifs spécifiques, deux dispositifs tout particulièrement, un dispositif de vérification que les circonstances sont bien exceptionnelles, et ceci peut se faire soit qu'on exige des conditions particulières, qu'une menace, par exemple, c'était le cas de la loi de 1878 sur l'état de siège, qu'une insurrection à main armée ou une invasion étrangère menace la sécurité du pays, la loi la loi à valeur constitutionnelle, il ne s'agissait pas de constitution puisque la Troisième République n'avait pas de constitution, mais la loi constitutionnelle de 78, à valeur constitutionnelle de 78, disposait que, en cas d'invasion étrangère ou d'insurrection à main armée, alors l'Assemblée pouvait décréter l'état de siège. Donc ici, on spécifie une condition plus élevée que, ou une exigence plus élevée que celle qui est requise pour le vote de la législation ordinaire. On peut aussi faire appel à une institution différente, comme lorsque des tribunaux sont amenés à se prononcer sur le point de savoir si oui ou non il y avait matière à déclarer cet état d'exception ou cet état d'urgence. Donc ceci est une manière de renforcer en quelque sorte la vérification que la menace était bien exceptionnelle. Et puis enfin, on trouve le troisième élément, qui est celui de la durée limitée. Dans l'image légendaire de la dictature romaine, c'était les 6 mois, mais l'habeas corpus ne pouvait être suspendu qu'une année à la fois. Le Parlement devait renouveler la suspension. La loi martiale, je fais cela à grands traits, mais je crois que l'intuition est néanmoins importante, la loi martiale ne durait qu'autant que les tribunaux civils étaient incapables de fonctionner. C'est d'ailleurs une condition de fait. Mais sitôt que les tribunaux civils étaient capables de fonctionner à nouveau, il n'y avait plus matière à ce que fonctionne la loi martiale. C'est encore une manière de disposer que tout ceci est enclos dans des limites temporelles spécifiées. Et donc, cet ensemble de dérogations justifiées dans des circonstances exceptionnelles dûment vérifiées soit par une réglementation antérieure plus restrictive, soit par une autorité extérieure, et pour un temps limité, ça, il me semble que on est fondé à considérer que c'est la structure sous-jacente des dispositifs d'exception appartenant à la tradition constitutionnaliste. Ils lui appartiennent, me semble-t-il, de plein droit. Ils sont animés du souci de maintenir l'existence de l'ordre constitutionnel et légal, qui est lui-même la condition d'effectivité des droits, dans des moments où celui-ci peut être menacé. Et il y a des manières de limiter de canaliser cette dérogation, les deux moyens que je viens d'indiquer, la vérification que les circonstances le justifient et la limitation temporelle. Dans ces conditions, l'idée pourrait venir qu'après tout, cette structure ajustée aux circonstances du présent pourrait servir pour faire face au terrorisme. Je crois que ce serait une erreur fondamentale, et non seulement ce serait une erreur fondamentale, je pourrais avoir inventé, comme le font souvent les universitaires, des hommes de paille pour les attaquer ensuite et se donner le mérite d'avoir démonté de fausses chimères, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Car, indépendamment du droit pénal de l'ennemi qui ne se proclame pas ou qui ne se présente pas, peut-être en discuterons-nous, comme une législation d'exception, il est des auteurs ou des théoriciens anglo-américains qui défendent que l'idée d'un gouvernement d'exception, les termes ne correspondent pas exactement, ici on parlerait de emergency government ou emergency powers, c'est cela l'équivalent dans la tradition légale anglo-américaine, mais il se trouve des auteurs pour dire et affirmer que le terrorisme relève d'une législation de emergency. Donc, ça n'est peut-être pas tout à fait sans justification de dire pourquoi il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi, je pense, pour 3 raisons fondamentales. La première, c'est que le terrorisme tel que nous le connaissons n'est pas destiné à durer peu. Les analyses nous l'indiquent, nous n'avons pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est plutôt de l'ordre de la durée d'une génération. Deuxièmement, à supposer même qu'il vienne à sa fin, nous n'aurions pas les moyens de déterminer clairement la ligne de partage, le moment où cela a cessé, comme on a pu par exemple déterminer que l'armistice avait été signé en 1918 et d'ailleurs l'état de siège n'a été levé qu'un an plus tard. Clémenceau a beaucoup tardé à lever l'état de siège, même après la fin de l'armistice et même après la signature du traité de Versailles, c'est dire. En tout cas, rien dans le terrorisme ne marquerait cette limite épistémique par où on peut voir la fin de la menace. Et troisièmement, la troisième raison, c'est que la fin de ce phénomène serait difficilement saisissable dans le monde. Prenons un exemple. Supposons que nous sommes en 2011-2012. Aucun attentat terroriste n'est intervenu aux États-Unis. Supposons aussi que les États-Unis ont adopté quelques législations d'exception. Pendant ces 10 ans, ces 11 ans, rien ne s'est passé aux États-Unis, mais des attaques terroristes réclamées par des groupes djihadistes ont eu lieu à Islamabad, à Karachi et à Londres. Que vont faire les États-Unis? Que faut-il faire? L'indétermination de la fin, l'indétermination de la limite rend inadéquate l'application de ce schéma. C'est mon premier point. Et du coup, constructivement, pour tenter de répondre à la mission qui nous avait été assignée, constructivement, je dirais que si nous avons à penser des mécanismes dérogatoires, il ne faut pas les penser selon le temps, mais selon la justification. Il peut, et nous avons des moyens, des instruments de raisonnement, comme ceux qui exigent la démonstration d'un intérêt général, la proportionnalité de la dérogation par rapport à l'intérêt général visé, le lien concret des moyens proposés et de la fin d'intérêt général, un autre critère alternatif, et le moins restrictif des libertés des moyens de maintenir cet intérêt général. Nous avons des manières de raisonner et de rendre du coup, d'incorporer à l'état de droit des dérogations légitimes ou justifiées. J'avais annoncé trois points, je n'indique qu'un second point, mais qui me paraît d'une très grande importance. Dans l'arbitrage que l'on présente souvent entre sécurité et liberté, on implique ou on fait recours, quoique les Français n'en soient souvent pas très conscients, on fait recours à un argument de type utilitariste qui dit quelque chose de la sorte, de l'espèce suivante. À chaque moment, on établit un équilibre ou un partage entre deux objectifs contradictoires, qui sont la liberté et la sécurité. Et on fixe la ligne du partage à l'endroit où un déplacement vers le pôle de la sécurité comporterait plus d'inconvénients pour la liberté qu'il ne comporte davantage en matière de sécurité. C'est cela la manière rigoureuse, c'est un raisonnement marginaliste, où on arrête, et c'est la structure de ce raisonnement. On fixe la balance là où l'avantage gagné d'un certain côté serait égal à la perte sur l'autre objectif. Parce qu'à ce moment-là, on devient indifférent, on a une courbe d'indifférence. On me permettrait d'utiliser ce type de raisonnement économique, mais je crois qu'il est ici le fondement conceptuel le plus aigu de cette matière. Or, le point fondamental dans ce type de raisonnement, c'est que l'agrégation des avantages et des coûts d'une mesure quelconque ne tient pas compte de sa distribution au sein de la population. On ne tient pas compte, lorsqu'on mesure les avantages et les inconvénients, de savoir si ceux-ci sont concentrés sur un tout petit secteur de la population et très grand, ou s'ils sont au contraire diffusés. C'est ceci qui est inacceptable. La balance entre l'équilibre, entre la sécurité et la liberté est insensible à la distribution de ces biens entre les segments de la société, de sorte qu'au total, la liberté des uns peut payer la sécurité des autres. Et la dernière chose que je voulais observer est que la notion de société du risque est confuse. Il n'y a pas de raison de penser que des crises sanitaires et des crises telles que le terrorisme relèvent du même modèle, sauf cette illusion de rassembler sous un mot qui fait penser, parce que ça paraît profond, que c'est la même chose. Pas du tout. Les crises sanitaires, et je reviens à mon premier point, ont une limite épistémiquement claire. On sait déterminer le moment où une épidémie est terminée. Du coup, il peut y avoir à mettre des gens en quarantaine. On vient de le faire, on l'a fait, on le fera sans doute encore. Mais on sait le moment où les circonstances exceptionnelles seront finies, on aura les moyens de le savoir, ce qui n'est pas le cas pour le terrorisme, comme je viens de le montrer. C'est une différence absolument fondamentale. La dangerosité dont nous parlions plus tôt revient à ceci, qu'un individu peut être porteur d'une potentialité d'événements indésirables. Que cet événement indésirable soit la contagion parce que l'individu est porteur ou porteuse d'un virus ou la commission d'une action illégale ou l'intention de commettre un crime. Mais ces deux potentialités d'événements indésirables ont un statut entièrement différent. Dans un cas, c'est l'intention de commettre un acte illégal qui était ou n'était pas présente et il importe de manière décisive de déterminer si cette intention était là ou pas, ne fût-ce que pour des raisons pragmatiques, car même, sans même parler de raisons de droit, s'il y avait une intention de commettre, il faudra tenir compte de ce qui se passera après que l'individu aura été mis dans l'incapacité d'exercer cette intention. S'il n'y a pas d'intention, si l'individu se trouve simplement porteur d'un virus qui est là en lui comme un objet, le point que la détermination de l'erreur ou de la non-erreur est sans importance. Donc, je ne sais si ce point est constructif, mais il me semble en tout cas qu'une manière à laquelle nous pourrions contribuer, en tout cas je tirais de nos réflexions cette conséquence, c'est de ne pas accepter cette notion de société du risque qui autorise au motif qu'elle décrit un état de choses, le justifie ce faisant, laissant de côté des distinctions morales absolument fondamentales.